Chapitre 55. Comment va-t-elle, docteur? Camille Nijinsky avait ôté ses gants fourrés et se massait doucement les mains. D'un geste, le docteur Fibonacci lui intima de ne pas s'avancer davantage dans la chambre. Face à eux, la patiente dormait. Le bip lent de l'électrocardiogramme indiquait un sommeil paisible qu'il n'était pas question de perturber. D'après ces médecins, physiquement, il n'y a pas de risque. Les analyses biologiques révèlent des carences, mais rien de grave. Quant à ses engelures, même si certaines sont assez profondes, elles ne laisseront pas de séquelles. Psychologiquement, en revanche, c'est une autre histoire. Je vais faire au plus simple. Tout a disparu de sa mémoire. Quand vous dites tout, l'intégralité de sa vie d'avant. Elle ne se souvient de rien. Une page blanche. Marc Fibonacci étudia la réaction de son interlocutrice, qui sortit de sa poche un stylo et un carnet. Tous deux étaient neufs, comme l'identité dans laquelle elle s'était réveillée quelques jours plus tôt dans le service de psychiatrie. C'était impressionnant de voir à quelle vitesse elle était passée d'une personnalité à une autre. Comme ça, en un claquement de doigts. Fibonacci n'aurait pas imaginé qu'il puisse y avoir une nouvelle fugue psychique, mais la maladie avait brusquement refait surface, éloignant encore plus Julie Moscato de ses origines. Elle était désormais lieutenant de police, et si elle avait émergé ici un matin, c'était simplement parce que, selon elle, elle était tombée de fatigue. La faute à ces interminables journées qu'elle consacrait à une enquête complètement folle et qui impliquait en premier lieu la femme alitée devant eux.
Il va falloir que vous m'expliquiez, docteur. Je ne vois pas comment elle a pu oublier soudain toute sa vie alors qu'elle est allongée sur un lit d'hôpital et que vous m'affirmez que physiquement elle n'a rien de grave. Cette femme a été retrouvée couverte de sang, dans les bois, à proximité d'un cadavre. Elle n'a pas prononcé un seul mot depuis. Et maintenant vous m'annoncez qu'elle ne se rappelle rien?
Fibonacci emmagasinait les informations, de plus en plus stupéfait. Des souvenirs subsistaient dans les profondeurs de son cerveau, mais ils étaient modifiés, incohérents, et se mélangeaient avec le présent. En effet, c'était elle qui avait été découverte à côté d'un cadavre, dans son chalet au cœur de la forêt. Quant à cette patiente, devant eux, elle n'avait aucun rapport avec cette histoire. Juste une parfaite inconnue qui s'était perdue en randonnée et était restée bloquée une nuit dans le froid. Camille ouvrit son carnet d'un geste sec.
On n'a rien. Ni sur elle, ni sur la victime, ni sur les circonstances de cet horrible drame. Personne ne connaît cette femme. Personne ne l'a jamais vue. On ignore d'où elle sort. Se réfugier derrière une amnésie est peut-être un moyen de nous dissimuler qui elle est, ou de fuir ses responsabilités.
Croyez-moi, elle ne simule pas.
Dans ce cas, expliquez-moi. Convainquez-moi. Afin que je puisse moi-même convaincre mes supérieurs. Ils vont avoir besoin de réponses.
Fibonacci l'invita à rejoindre le couloir, referma la porte et pointa du doigt les deux hommes qui patientaient un peu plus loin.
« Lequel est votre supérieur ?»«
Aucun. Ce ne sont que mes coéquipiers et ils sont assez hermétiques aux affaires compliquées. Tous les deux n'attendent que la retraite. Et puis, pour tout vous avouer, on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de truc dans notre patelin. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met la nouvelle sur le coup. Une sorte de test, vous comprenez ?»
Les deux hommes ne les lâchaient pas des yeux, les traits tendus. Le thérapeute nota l'incroyable capacité que son interlocutrice avait développée. Elle nourrissait le présent à partir d'un passé complètement inventé, et ce en temps réel. À chaque heure, jour écoulé, la peau dans laquelle elle s'était glissée gagnait en épaisseur. En réalité, elle n'était pas seulement persuadée d'être flic, elle était flic.
« Je vais nous chercher des cafés », répondit simplement Fibonacci. « Noir et très sucré ? » ?»«
Vous savez lire dans les pensées ?»«
C'est un peu mon métier. » »« En attendant, installez-vous dans la chambre à côté, la 21. Nous serons au calme pour discuter. »
Il alla rejoindre son confrère, ainsi que le lieutenant de police qui menait l'enquête. Les psychiatres avaient 5 semaines pour établir une expertise. Le problème, c'était que le meurtre avait eu lieu 1 mois plus tôt et que tout dans cette affaire posait question. À commencer par la victime au crâne défoncé à coups de tisonnier.
Caleb Traskman, censé être mort depuis des années.
« Comment ça se présente ?»
demanda le flic.
« Mal, admit Fibonacci. Tout l'édifice s'est bel et bien effondré. Elle est incapable de se rappeler l'histoire qu'elle nous a elle-même racontée. Sa fenêtre de clairvoyance qui lui a permis d'accéder à ses différentes identités n'a été que de courte durée, malheureusement.
Plus le moindre souvenir, donc, de Vera, de Lisine, d'Ariane, ni de Julie Moscato ?
Non. La fugue dissociative est une fois de plus aux commandes et elle est bel et bien Camille Nijinsky, lieutenant de police. Camille comme Camille Claudel, et Nijinsky comme Vaslav Nijinsky, le danseur russe. Aucun mystère de ce côté. Le parcours de ces deux personnalités est retracé dans La folie de l'artiste, un bouquin qui se trouvait dans le chalet. Nijinsky était schizophrène, Claudel souffrait de délires chroniques paranoïaques et de psychoses.
Les livres semblent d'ailleurs avoir toujours joué un rôle important dans la constitution de ces identités, précisa son collègue.
Les livres et les articles de journaux en sont en effet les fondations, continua Fibonacci. Elle est par exemple devenue psychiatre dans son costume précédent, parce qu'un psy avait réellement habité là et qu'il y avait tous ses manuels, toutes ses bibles dans la bibliothèque. La mue était logique, évidente. Plus elle lisait, plus elle était à l'aise dans son rôle. Ensuite, à partir d'un fait divers, sûrement l'un de ceux affichés sur les murs de sa cellule lorsqu'elle était entre les mains de Traskman, elle s'est inventée une fille noyée. Et puisque le prénom de la gamine n'avait pas été cité dans l'encart, elle lui en a donné un. Emily, un des personnages de Dix Petits Nègres. Tout comme Vera Claythorne. Là aussi, probablement un vieux souvenir remonté à la surface quand il lui a fallu un nouveau nom.
Fibonacci se décala vers la machine à café, glissa des pièces dans la fente et sélectionna les boissons. Ce qu'il était en train de vivre, avec Julie Moscato, c'était le cas d'une vie. Et il devait en être de même pour le flic. Cette affaire était hors du commun.
Je tiens malgré tout à souligner que cette nouvelle fugue dans la peau d'un policier l'a, a priori, débarrassé de ses hallucinations et de cette phase intense de paranoïa qu'elle semble avoir vécue dans la forêt. Sophie Henrichs n'était alors qu'une voix et qu'un visage qui, en permanence, lui envoyait des messages sur son propre état mental. D'une certaine façon, Sophie Henrichs est apparue le temps d'une nuit pour lui révéler la terrible vérité, celle d'une jeune femme retenue prisonnière pendant des années par un monstre et qui ne s'était réfugiée dans ces bois que pour fuir. J'ignore s'il s'est agi d'un incroyable signe du destin ou d'autre chose, mais c'est pile à ce moment-là que Caleb Traskman l'a retrouvée. Et ça, ce n'était pas le fruit de son imagination.
« On exclurait donc le diagnostic de schizophrénie ?» demanda son collègue.
« Il va falloir creuser. Dans son chalet, Vera Claythorne voyait des individus et des objets qui n'existaient pas, avait des conversations élaborées avec eux, qui engendraient des réactions et des actes complètement aberrants. Elle jouait quand même seule aux échecs, pensant disputer une partie par radio avec un homme mort depuis des mois, et a lu un roman que son cerveau a construit de toutes pièces sur la base du drame vécu par la jeune Romy. Elle cochait de nombreuses cases de la schizophrénie paranoïde.
Mais est-ce pour autant que Lisine, sa personnalité précédente, était atteinte de cette pathologie? Que Camille Nijinsky l'est aujourd'hui?
Je ne comprends pas, fit le lieutenant. Elle aurait deux maladies mentales? Une schizophrénie et en même temps des fugues psychiques?
Vera avait bien deux maladies mentales, oui. Mais les autres personnalités, nous n'en avons aucune idée.
Son confrère secoua la tête.
Les délais que nous avons sont trop courts pour rendre notre rapport.
Il se tourna vers le policier. Au fait, vous avez téléphoné à ses parents?
Pauvres gens. On a beaucoup entendu parler de cette histoire d'enlèvement à l'époque. La disparition de Julie Moscato a été très médiatisée et puis chacun a repris sa vie. Mais pas eux.
Nous voulons d'abord nous assurer de points importants. Nous les préviendrons ensuite. On ne veut pas les contacter avant d'avoir démêlé le plus gros de ce sac de nœuds et d'avoir des certitudes à leur communiquer. On doit pouvoir être clair face à ce père et cette mère qui pensent leur fille morte depuis 13 ans et qui vont la retrouver dans cet état.
13 ans, vous vous rendez compte?
Un silence pesant s'abattit sur le couloir. Puis le flic poursuivit.
Je vous rappelle que tous les documents officiels qu'on a pu récolter au Ménil-Amelot indiquent sans ambiguïté qu'elle est Lisine Barth et non Julie Moscato. Et que, parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel dans tout ça, cette femme a sauvagement tué un homme à coups de tisonnier. Un homme qui l'a séquestré pendant presque le quart de son existence.
qui a dû lui faire subir des tortures et des humiliations inimaginables. Et dans le fond, qui a tué cet homme? Julie? Vera? Aucune d'entre elles? Celle qui m'attend dans l'autre pièce, avait-elle vraiment conscience de ses actes?
Le policier ne répondit pas. L'enquête allait être longue et fastidieuse. Et il ne parlait même pas des ramifications, des autres individus impliqués. Il était déjà épuisé. Et vu les visages qu'il avait en face de lui, il n'était pas le seul.
« J'y retourne », annonça pourtant Marc Fibonacci en s'emparant des boissons. « Je vais essayer de la confronter à ce qu'elle nous a elle-même confié avant de replonger. Peut-être y aura-t-il des éléments qui créeront une nouvelle brèche dans laquelle je pourrai m'engouffrer. »
Il s'éloigna, entra dans la chambre avec deux gobelets fumants et repoussa la porte du talon. Camille parcourait la chambre en long, en large.
« Asseyez-vous, mademoiselle Nijinsky, je vous en prie. J'espère que vous avez du temps. Ce que je vais vous raconter, c'est comme ouvrir un roman à suspense particulièrement sombre et en prendre pour 500 pages de montagnes russes.
J'ai tout le temps qu'il faudra. Il est important que nous établissions la vérité sur cette affaire. »
Ah, la vérité.
Fibonacci marcha jusqu'à la fenêtre où elle se trouvait quelques minutes plus tôt. Il garda un moment le silence, son gobelet au bord des lèvres. De là, il avait une vue plongeante sur le cabriolet Ford de couleur verte qui avait été retrouvé au hameau abandonné et avait appartenu, en réalité, à la véritable Lizine Barthe. Évidemment, Camille Nijinsky n'était pas libre de circuler, mais le thérapeute avait demandé aux enquêteurs de garer le véhicule sur le parking. Tout devait être mis en place comme dans un décor de théâtre, d'où le carnet et le stylo sortis de l'armoire à fourniture du secrétariat, afin de mesurer la profondeur de la fugue et de tenter de comprendre comment sa patiente fonctionnait et affronter les contradictions qu'elle rencontrait en permanence. Quelques instants plus tard, il se tourna vers elle.
« Le cerveau humain peut déployer les plus incroyables stratagèmes pour protéger l'esprit. Il s'adapte sans cesse, se reconstruit sur ses ruines. Il est même capable de se piéger lui-même, de faire passer des souvenirs inventés pour réels, de nous persuader, par exemple, que nous avons été agressés à la cantine quand nous étions collégiens, même si cela ne s'est jamais produit. Savez-vous comment on appelle ce phénomène ?»«
Absolument pas, je ne suis que policière. »
La paramnésie de certitude, la conviction du déjà-vu, du déjà-vécu, une pure invention de l'esprit. Alors où se situe la vérité là-dedans, à partir du moment où vous croyez que le passé que vous avez en mémoire est le vrai passé?
Il s'installa en face d'elle, après avoir pioché un objet dans sa poche.
Vous jouez aux échecs, mademoiselle Nijinsky?
J'en connais les règles, tout au plus.
Elle portait ceci sur elle. Un fou du camp noir.
Camille manipula la pièce en bois, haute de 5 cm. Fibonacci l'observait avec fascination. Elle avait sincèrement l'air de la découvrir, et elle réagirait sûrement de la même manière face au carnet de notes d'André Lambert. Mais comment se débrouillerait-elle s'il lui proposait une partie? Quel niveau aurait-elle? Celui de Julie Moscato? De Vera Clayton? Ou serait-elle juste une débutante comme elle le prétendait? Il y avait tellement de pistes à explorer et si peu de temps pour le faire.
Où ça, sur elle? Nous n'avons rien trouvé et elle m'a parlé.
L'interrompit Fibonacci d'un air grave. Avant d'oublier, la patiente m'a expliqué ce qui s'est passé, de A à Z.
Camille manifesta sa stupéfaction, se demandant probablement pourquoi il ne les avait pas avisés plus tôt de cette information capitale.
« Elle a avoué le meurtre ?»«
C'est... plus compliqué que ça. »« Je dois vous confier qu'au cours de ma carrière, je n'ai jamais été confrontée à un cas pareil. J'en ai pourtant croisé des patients. Mais elle... elle est hors du commun. »
Il reprit la pièce d'échecs et désigna le carnet que son interlocutrice venait de poser sur ses genoux.
« Vous avez raison, écrivez. Écrivez tout ce que vous pourrez, même si l'histoire que je vais vous raconter est longue et complexe. Elle est certainement la plus extraordinaire que vous entendrez de toute votre vie. De celle qu'on ne lit que dans les romans. Et encore. »
Camille rouvrit son carnet vierge. Première page.
« Au fait, Petite parenthèse, ajouta Fibonacci. J'aime beaucoup l'opéra et la musique classique, et votre nom de famille m'intrigue depuis notre rencontre. Ôtez-moi d'un doute, aucun lien avec Vaslav Nijinsky, le célèbre danseur russe du siècle dernier qui fut atteint de schizophrénie?
Mon arrière-grand-père venait de Slovaquie. Il était ouvrier. Pas grand-chose à voir avec l'opéra. Enfin, je pense que je l'aurais su si ce danseur figurait parmi mes ancêtres.
Elle créait de toutes pièces, sans même s'en rendre compte, pareil à un auteur qui se lancerait dans la rédaction de son manuscrit avant de connaître le chemin de son intrigue. Et ce qu'elle inventait aujourd'hui allait devenir un faux souvenir demain. À chaque heure qui s'écoulait, Camille Nijinsky devenait un peu plus Camille Nijinsky.
Si ça vous intéresse, je serai ravie de vous parler de Nijinsky un de ces jours.
Il la vit simplement hocher la tête. Elle n'avait pas l'air très enthousiaste à cette idée.
Revenons à notre affaire, continua-t-il. Vous devez savoir qu'il y a 5 protagonistes dans le récit que je vais partager avec vous. Toutes des femmes. Écrivez. C'est important pour la suite. La journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière. Elle inscrivit scrupuleusement, les unes sous les autres, les identités. Sembla réfléchir.
Marc Fibonacci ne la lâchait pas des yeux, comme s'il cherchait à pénétrer dans son esprit. La journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière, répéta-t-elle en relisant ses notes. Il me manque la 5e personne. Le médecin se cala au fond de sa chaise dans une longue inspiration. Ça allait être une histoire complexe, très complexe.
Elle n'apparaît que plus tard. Elle est la clé de tout, répondit-il. Son identité ne pourra vous être révélée qu'à la fin de mon récit. À présent, écoutez jusqu'au bout ce que j'ai à vous raconter.
Il brandit le fou noir devant lui. Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette 5e personne, elle est le fil dans le dédale qui, j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions.